si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, soyez les bienvenus sur la Judaïka, radio flamboyante du 102.9. Fais-moi une place et papotez par le Muller André. Vous le connaissez ? Bah ouais, c'est moi bien sûr. Alors, ce matin de bonne heure, j'ai traversé le parc des Contades à bicyclette en route vers le studio radio sous la Sina. Et soudain, d'une soudaineté rare, j'ai levé les yeux, devant moi l'alignement majestueux des platanes centenaires se dressait comme une haie d'honneur dorée. Leur feuillage, frappé par la lumière pâle de novembre, jetait l'or de ses feuilles par la fenêtre entr'ouverte et une à une les feuilles se détachaient, virevoltant dans l'air en lente chorégraphie. Comme si un grand peintre, son pinceau imbibé de luminosité de couleurs d'automne, transformer le parc des Contades en galerie d'art à ciel ouvert. Car aujourd'hui, j'ai invité une femme dont le regard transforme les murs en fenêtres ouvertes sur le monde. Je vais vous présenter Pascale Frossel, mon invitée surprise galeriste, rue des Dentelles, à Strasbourg. Ensemble, nous allons donner un tour de manivelle et rembobiner sa vie. Moteur, ça tourne. Bonjour Pascal, bonjour. Ravi de t'accueillir dans notre studio Radio J.
Ça me fait très plaisir de revenir parce que ça fait un petit moment que je n'étais pas venue, donc c'est un vrai plaisir.
Et puis nous on se voyait
on se croisait de temps en temps.
Quelques jours on s'est croisé un rendez-vous par hasard, comme ça, le plus beau des hasards, dans un magasin, on achetait du fromage.
Voilà, et où je ne vais jamais. Voilà,
c'est drôle, les beaux hasards. C'est drôle les hasards.
Ouais, hein. Ouais.
Alors, comment tu gazouilles dans ton monde à toi, le monde de l'art, de la peinture, de la sculpture, dans la Spitzkos?
Écoute, ça fait... L'année prochaine, ça va faire 40 ans que j'ai ouvert ma galerie en 1986.
C'est pas vrai.
C'est vrai.
Mais tout n'a pas changé, Pascal.
J'espère.
Et alors maintenant, on va parler, bien sûr, on parle de ta galerie, mais on va un peu rembobiner ton film en 16 minutes. Et parle-moi un peu de toi, Pascal. Tu es native d'où ? Tu es Elsassienne ?
Ben, je suis née à Strasbourg.
Ouais.
Voilà, et quand nous avons vécu avec mes parents et mon frère qui est né aussi à Strasbourg, nous avons vécu quelques années ici, dans le quartier de la Méno.
Dans ta tendre enfance ?
Oui, jusqu'à l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 4 ans, nous sommes partis puisque mon papa a été nommé directeur d'un service juridique d'une usine à Tannes, l'usine de produits chimiques qui se trouve à l'entrée de Tannes.
Ah, on la connaît.
Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Tannes.
D'accord. Et comment était ton enfance à Tannes alors ? Raconte-moi un petit peu, ton terrain de jeu.
C'était une enfance heureuse. C'était vraiment une enfance heureuse. Terrain de jeu, c'était vraiment que les copines. Et puis c'était l'époque où on avait droit à une copine, pas deux. Si on parlait à une autre, il y avait jalousie, il y avait rivalité.
Ah, à l'école déjà, compliqué. Quoi.
Donc moi, jusqu'à la cinquième, sixième, j'avais toujours la même copine.
Et comment s'appelait ta copine ?
Anne.
Elle s'appelle Anne.
Ouais.
Ah ouais, une blondinette aux yeux bleus.
Elle avait les yeux bleus, mais pas blondinette.
Et qu'est-ce que tu jouais à la poupée à l'époque avec ta copine Anne ?
Alors, on jouait des fois aux sorcières, je me souviens. On jouait à des jeux comme ça.
Parce qu'au-dessus, il y a un truc de sorcière,
oui,
non ?
Oui, il y a l'œil de la sorcière.
L'œil de la sorcière, ouais, à Tannes, ouais.
Et on faisait les sorcières du bon vieux temps.
Voilà. Ah ouais, avec un balai comme ça, et puis tu volais au-dessus de Tannes.
On faisait un petit peu des entourloupes avec les personnes, on leur disait qu'on était les sorcières du bon vieux temps.
Ah, ouais, c'est joli ça.
Et puis après, il y a eu Catherine aussi, qui est devenue une professeure de piano.
Ouais. Et qu'est-ce que tu lisais à cette époque ? Les Martines, les Lily ?
Lily, Agi, Caroline, puisque ma sœur Caroline qui est née à Mulhouse. Ouais. Elle est née dans le Haut-Rhin, donc voilà, on lisait Caroline aussi.
Ça t'a donné un peu le goût de la lecture, tout ça ?
Un petit peu, mais je ne suis pas une grande lectrice. Par contre, quand je lis, c'est à fond.
C'est à fond, ouais.
Voilà.
Ouais. Ouais, parce que dans ta galerie, de temps en temps, on en parlera tout à l'heure, tu as un peu d'espace, tu peux lire, là, tu peux lire les journaux, pas trop, tu as plein de choses à faire.
Ouais, ouais. Ouais.
Et on parlait tout à l'heure des Martines et des Lily, tu te souviens comment s'appelait le compagnon de Martine ?
Pas d'apouf.
Ouais, donc tu te souviens bien de ça. Ouais, c'est bien, ouais.
J'avais des petits livres comme ça, je me souviens, Le mariage de Renette, puis les petits disques aussi.
D'accord.
Des contes, j'aimais bien les contes, en fait.
Et tu étais une petite fille modèle avec des nattes et des jupes plissées et un petit col clolline fermé jusqu'en haut de la gorge.
Pas vraiment, non. Mais j'ai toujours aimé la mode.
La mode, ouais. Oui, mais ça se voit, t'es toujours bien habillée.
Oui,
ouais.
Ma marraine et ma cousine en même temps étaient mannequins et elle m'a donné vraiment ce goût de la mode. Chaque fois que je venais à Strasbourg la voir, je revenais à Tannes avec des pattes d'Ève, des casquettes, des petits bandanas. Et c'est toujours mon signe de fabrique. J'ai toujours un petit bandana.
Ouais, mais ça se voit, tu l'as aujourd'hui.
Voilà, mais j'en ai toujours.
Et je me souviens, lors d'un tournage, tu m'avais offert un joli châle tout vert comme ça. Ouais. Et je l'ai toujours.
Je
mets très souvent. J'aurais dû le mettre ce matin. Ouais.
Parce que t'en as mis un très beau aussi.
J'en ai un, ça c'est de ma maman. Ouais, donc,
tu vois, on a toujours des souvenirs. Toujours des souvenirs. Voilà, une bague d'une maman, une montre.
C'est marrant parce qu'on aime la même chose. On aime un peu les habits, on aime les fringues. Ça, c'est quand même quelque chose.
Ah oui, ça prend beaucoup de temps dans mon imaginaire. Si je ne suis pas bien habillée le matin, je rentre chez moi pour me changer.
Tout est changé. Ah oui, ça t'arrive, ça.
C'est la couleur du jour. Il y a des jours où on sait qu'on va porter du rouge. Il y a un jour où on sait que ça va être gris.
Ouais, puis tu as toujours des bottines rouges aussi. T'aimes bien les petites
vraiment.
Bottines.
Il faut que tout soit sorti.
Ouais, ça se voit aujourd'hui. Alors, combien de temps tu passes devant ton dressing le matin?
Ah, c'est dès le lever. Hein. Donc, je prends le petit déjeuner en réfléchissant.
Comment tu vas t'habiller? Bah oui, c'est important aussi dans ta galerie d'être un peu smartouille comme ça, d'être bien habillé.
C'est vrai que ça me permet cela, ouais.
C'est bien, ouais.
Et alors... J'ai toujours été habillée un peu comme ça et je me souviens que même à la fac, quand j'allais à la fac de droit, j'avais toujours des tenues un peu qui ne correspondaient pas tellement.
Et les garçons étaient comment quand ils te voyaient passer?
Ils
étaient à l'arrêt, comme ça, comme
non,
un
ils
chien.
Ils ne regardaient pas.
comme Tex Avery, tu sais, quand il était figé.
Non.
Ils ne te regardaient pas? Bah, ils ont eu tort.
Bah, écoute.
Ah ouais,
c'est trop original des fois.
Oui, c'est vrai. Ah oui, ça fait un peu de différence et ça fait de la jalousie.
Ouais, j'allais. C'est pas ça, je crois que ça faisait. Bah, je sais pas. J'ai toujours aimé les choses brillantes, un peu dorées,
Ouais, c'est bien. Alors, on va revenir un tout petit peu à Tannes, à ton jeune âge. Tu as grandi là-bas, bien sûr. Mais Tannes aussi, c'est une ville un petit peu quand tu rentres dedans. Il y a cette usine chimique qui crache de la fumée. Là, c'est pas un peu pollué, non?
Écoute, ils ont fait de gros progrès.
On va dire ça comme ça. C'était un des grands sites en France, hein,
oui,
je crois.
C'était la première usine chimique au monde.
Au monde, non au pas monde. En
oui,
France
oui. Oui, qui a souvent changé de propriétaire. Maintenant, il s'appelle Tronox. Vinova.
Avant, c'était Rhône Poulain.
Oui, il y a eu Rhône Poulain, qui a eu Albemarle, PPC. Au départ, c'était potasse et produits chimiques.
Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme produit là-bas?
Ils produisent de l'oxyde de titane.
Et ça sert à quoi?
Ça sert aux peintures industrielles.
Ah oui, voilà. D'accord. Ah, tu en sais des choses, ouais.
Bah écoute.
Ça, c'est bien du côté de ton papa.
C'était papa, ouais. Mais il a toujours été très discret sur tout ce
qu'il faisait. Il n'a jamais parlé de son travail.
Pas vraiment, non.
Il rentrait des fois avec un masque comme ça, non?
Non, jamais.
Jamais. Il n'était pas habillé en cosmonaute quand il rentrait, non?
Mais on ne faisait pas tellement attention à tout ça à l'époque encore.
Ouais, c'est vrai, tu avais raison, ouais. Mais, et ta maman, qu'est-ce qu'elle faisait?
Ma maman, elle était puéricultrice.
Ah,
et puis quand elle a eu ses trois enfants,
métier.
Elle a arrêté. Ici à Schittigheim, à la pouponnière de Schittigheim.
Au CMCO?
Oui.
Ah
non,
ouais.
Pas au CMCO, je sais plus. Elle appelait ça la pouponnière.
La pouponnière,
ça doit
être
le CMCO aujourd'hui, oui.
Ouais, peut-être.
Oui.
Ouais,
quand elle nous a eu, elle a arrêté pour.
Ouais, c'est beau.
Rester à la maison.
C'est noble de s'occuper de ses enfants.
Et elle a toujours aimé. Voilà, donc c'était elle qui s'occupait de nous en fait, les devoirs, la cuisine, tout ça.
Waouh. Et on parlait de Rhône Poulain, c'est toujours en activité, hein. Cette usine est toujours en activité.
Oui, elle est toujours en
activité. Ouais,
oui.
Bah écoute, et c'est ton papa qui t'a donné un peu le goût de l'art ou pas, non?
En fait, de mes deux parents, ma maman était originaire de Nancy, mon grand-père adorait faire les brocantes, il achetait toujours des très belles choses, des tableaux, ça c'était du côté papa.
Ah, toujours des tableaux, il achetait à la brocante.
Oui, ouais, il achetait toujours des tableaux.
Parce qu'à Tannes,
mes grands-parents, ils étaient de Bain-les-Bains dans les Vosges.
Ah, oui, d'accord.
De Nancy et Bain-les-Bains.
D'accord.
Ça c'est du côté maman, et puis mon grand-père achetait toujours des tableaux quand il allait, je me souviens d'un petit tableau qu'il avait acheté à Erquy, qui est maintenant chez mes parents, dans la maison de mes parents, puisqu'ils ne sont plus.
Et donc, tu regarder ces tableaux,
j'ai grandi là-dedans et de l'autre côté, du côté de mon père, bah, c'était les sœurs de ma grand-mère qui avaient la galerie que j'ai aujourd'hui en fait.
Dans la même, à la rue de la Dentelle.
Rue des Dentelles.
Ah, rue des Dentelles, Bah écoute, on va se reposer un tout petit peu les oreilles et on va écouter une musique. Tu m'as demandé d'écouter Françoise Hardy. On va parler un petit peu, c'est peut-être ta Madeleine de Proust, on sait jamais.
Madeleine.
Extraordinaire voix, hein, Françoise Hardy. Ah oui. On l'aime tous.
Tous.
Tout le monde l'a aimée, cette femme.
Hein. Une grande, c'est vraiment une femme exceptionnelle.
Exceptionnelle, qui aime aussi les fringues, est toujours super bien habillée.
Oui, elle a toujours été très bien habillée.
Ouais, moi, puis mince, filiforme, une très belle femme.
Toujours, quand, dans mon enfance, je découpais souvent des la première page des coupes de Paris Match. Tu vois.
Ah ouais,
quand elles étaient bien arrivées. Et le jour où Françoise Hardy est décédée, il y avait une superbe couverture. Et j'ai gardé ce match
gardé
où elle est habillée avec une robe jaune,
très
courage,
très
mode.
Ouais, c'est une femme incroyable. J'aime bien aussi. J'avais eu l'occasion de la rencontrer un jour et c'est vrai qu'elle était lumineuse sur scène. Elle était exceptionnelle. Ouais, c'était vraiment chouette. Alors, je sais que tu as envie de me parler de quelque chose. Peut-être que Françoise Hardy jouait aussi avec sa poupée Barbie, mais toi, tu avais une vraie poupée Barbie,
oui.
Avec un Ken sans doute.
Non, j'avais pas Ken, j'avais juste Barbie.
Et alors, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette poupée Barbie?
En fait, c'est la poupée que j'ai toujours aimée. J'en ai pas eu d'autres tellement, je crois pas. C'était celle-ci. Et puis, ce que j'aimais, c'est que ma maman, qui faisait de la couture, elle avait été couturière aussi, elle faisait des croquis de mode. On achetait des petits patrons, comme des patrons Burda à l'époque.
Ah oui, Burda,
Et c'était des patrons spécialement pour ma poupée.
Ouais.
Je l'appelais ma poupée Tracy, alors je sais plus pourquoi.
Tracy?
Je sais pas.
Ah oui, que jolie.
Tracy.
Ouais. Et alors,
maman me faisait les
fringues.
Oui, les fringues.
Alors, elle était très filiforme,
elle
très grande.
Elle était toute filiforme, c'était celle, tu sais, où tu tirais les cheveux par le... Ils leur faisaient des chignons, il y avait une clé dans le dos, tu remontais les chignons pour rentrer.
Elle avait des schillerlocks, comme on dit en alsacien, des bouclettes, tu sais,
c'est ça.
Des schillerlocks,
Et alors, je lui mettais des petits patins à glace, j'avais tout l'attirail, si tu veux. Et mon papa, qui n'était absolument pas bricoleur, il ne savait pas planter un clou. Pour un Noël, il m'avait fait un joli lit qu'il avait recouvert d'un tissu vert et que j'ai toujours d'ailleurs. De temps en temps, j'ouvre le tiroir et je la regarde et je lui dis
Et aujourd'hui, tu dors plus avec ta poupée Barbie?
Non.
Tu as Ken dans le lit, pardon, excuse-moi.
Ken, je suis un peu, pas Barbie, elle devait être...
Je suis un peu taquin, Alors, en fait, on va revenir un petit peu à tes études tatanes. T'as fait des études brillantissimes ou tu étais rêveuse ou un peu bosseuse à l'école? T'étais comment à l'école?
Oh, un peu timide, un peu bosseuse comme ça.
Ouais.
Ouais, mais timide surtout.
Et
je transcendais ma timidité quand on avait des cours de... quand il fallait lire des textes, tu vois, je me souviens, j'avais un prof de français qui me prenait toujours comme modèle pour lire les textes de Molière. Je me souviens, les lettres de Montmoulin, tout ça, c'était moi.
Parce que tu les lisais bien.
J'imitais, je prenais l'accent, etc.
Et tu te souviens d'un petit texte comme ça, d'une phrase que tu pourrais me lire devant le micro? Non, pas du tout. Non, mais c'est pas grave. Ouais, okay.
Pas du tout. Mais j'aimais beaucoup ça. Et puis toutes mes copines venait me voir après, elle me disait, c'est toi qui as lu tout ça, parce que t'es tellement timide, tu ne dis jamais rien, et là, tu es une autre. Voilà. J'aurais peut-être aimé faire du théâtre, mais ça ne s'est pas
t'aurais
fait.
T'aurais dû, ouais. C'est aussi du théâtre, d'accompagner les gens, de les rencontrer, de discuter avec eux.
C'est une forme aussi
leur donner envie d'acheter un tableau, ça, Et est-ce que tu emmenais ta poupée Barbie dans ton sac d'école, des fois, pour ne pas la laisser à la maison? Non, tu ne l'emmenais
pas. Non, quand même
pas. L'école, c'était pas ça, quoi, tu vois. Et alors, quelle était ta matière préférée à l'école? C'était déjà l'art, la peinture? C'était déjà le dessin?
Oui, j'aimais beaucoup le dessin aussi, j'aimais beaucoup. Ouais. Et puis, bon, j'ai fait un bac scientifique parce que...
Scientifique?
Oui, j'ai fait un bac D, biologie.
Ah oui, pourquoi?
Moi, j'en sais
scientifique.
Rien. Je me suis retrouvée là-dedans.
T'as envie d'être docteur ou t'avais envie d'être dentiste? Non, pas du tout.
Ma première année de fac, c'était fac de bio.
Fac de bio.
Je suis partie à la première dissection, j'ai dit non, c'est pas possible, je m'en vais.
Et après, ça t'a...
Mais c'est toujours intéressant parce que ce sont peut-être des échecs, mais qui amènent beaucoup de choses.
Certainement,
Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'intéresser à un discours scientifique parce que je vais comprendre un
petit
peu.
Tu le comprends,
Après, je suis allée en droit et puis ensuite en histoire de l'art. J'ai enfin trouvé ma voie en histoire de l'art.
Et l'histoire de l'art, en fait, c'était à Strasbourg. Toutes ces études, tu es revenu à Strasbourg.
À Strasbourg, oui. Quand j'ai eu 18 ans, je suis venue à Strasbourg. Oui.
Parce que le TAN, plein les baskets, quoi.
C'était jusqu'au lycée. Puis
c'était jusqu'au lycée là-bas. Ouais. Mais tu gardes un bon souvenir et tu vas là-bas.
Oui.
T'as encore la maison familiale là-bas. Donc tu as toujours plaisir à y retourner.
Oui, toujours.
Et la machine.
J'ai besoin de campagne parce que c'est vraiment... Il y a les montagnes juste derrière.
Oui, derrière, c'est beau là-bas. C'est
une magnifique collégiale pour ceux qui ne connaissent pas.
Oui, c'est vrai que c'est très très beau. Et alors à Strasbourg, tu fais tes études, l'histoire de l'art. C'est là que tu avais envie d'aller vers la... Du Spitzkos, monter cette galerie. Comment est venue cette idée de la galerie?
J'y ai pas pensé, mais en fait, le local appartenait à ma famille, comme je te disais un petit peu tout à l'heure.
D'accord.
C'était les sœurs de ma grand-mère qui travaillaient à l'époque chez Dan Wolf, pour ceux que ça rappelle quelque chose.
Ouais.
Dan Wolf a fusionné avec Veer, l'entreprise de verre. Et les deux sœurs ont dit, ben non, nous, on ne part pas dans la zone industrielle de Strasbourg, on reste à Strasbourg, on va faire une galerie. Donc là où je suis, 14 rue Dentelle, c'était l'atelier d'encadrement et elles avaient ouvert une galerie rue du 22 novembre. Donc quand j'étais petite, on allait avec mes parents, mon frère, ma sœur, on allait voir la galerie d'une de mes tantes, puisque la deuxième étant décédée. Et en 86, papa a décidé de vendre la rue du 22 novembre. Il a dit, est-ce que l'atelier d'encadrement intéresse quelqu'un? Moi, j'étais en quatrième année d'histoire de l'art, j'ai dit, ah ben moi. Et je crois que je suis restée assise sur une caisse en bois, parmi des scies, des baguettes, des kilomètres de baguettes, à me demander ce que j'allais faire. Voilà.
Et c'était des baguettes d'encadrement, tout ça, c'est pour encadrer des tableaux, voilà, en fait.
Voilà. Ouais, il y avait deux encadreurs d'horreur à l'époque, et tout le monde est parti.
Doré à la feuille, tout ça, ils faisaient aussi.
Ça, ouais,
ça c'est un sacré travail, ça.
Wow. Je n'ai pas appris, malheureusement.
Ah ouais, c'est chouette, ça. Et donc, cette galerie, c'est comme ça, en 86, oui. Tu as commencé à ouvrir Pignon sur rue, parce que tu es vraiment dans l'angle, là.
Ouais. J'ai encore des photos de cette époque-là. C'était un quartier qui était... Tout le monde se demandait ce que j'allais faire là-bas, parce que ce n'était pas du tout le quartier que l'on connaît aujourd'hui.
Ouais, c'est le début de la petite France,
c'est vraiment
en fait.
À l'angle. C'est vraiment la première maison de la petite France.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et à côté, tu avais les pains d'épices avec Mireille Auster.
Alors, ce n'était pas Mireille, c'était sa maman à l'époque.
Ah, c'était sa maman qui avait déjà fait les pains d'épices, ouais.
Elle ne faisait pas les pains d'épices, la maman, elle faisait tout, du souvenir, des gâteaux, des gaufres, je me souviens.
Et après, Mireille a repris derrière.
C'est Mireille qui a repris.
Et t'allais de temps en temps chipoter des pains d'épices chez Mireille.
C'est vrai qu'on est resté longtemps.
L'une à côté de l'autre. Sacré personnage aussi, Mireille. Et alors, cette galerie, comment t'as fait pour faire venir du monde? Comment? Parce que tu démarrais, en fait. C'est quand même assez dur de démarrer une galerie d'art.
Et puis là, vraiment, j'étais... en fait, c'est souvent des déclics et des rencontres, il faut bien le dire. Tout n'est que rencontre, finalement, dans la vie.
Comme nous, l'autre jour, en achetant du fromage, on s'est rencontrés, on s'est dit, tiens, on va faire une émission radio.
On va faire une émission,
Parce que t'as une très belle actualité en ce moment.
Oui,
raconte-moi cette... Et hier soir, t'avais un vernissage. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Qui c'est que tu exposes?
Ça, c'est le...
Cerise sur le gâteau.
Voilà, c'est Bernard Buffet.
Wow.
C'est vrai qu'en 86, lorsque j'ai commencé, on m'avait dit un jour tu exposeras Bernard Buffet.
Non, mais c'est incroyable.
C'est incroyable.
C'est quelqu'un qui est connu à travers le monde. Et ses toiles valent, je sais pas, des fortunes et des fortunes.
C'est ça.
Et toi, tu as exposé ces peintures à partir de hier. Alors, c'est de quand à quand tu exposes?
Alors,
jusqu'au mi-décembre.
Du 6 novembre, donc hier soir, jusqu'au 10 décembre.
Jusqu'au 10 décembre.
C'est déjà la quatrième. Exposition.
Mais comment tu as fait pour faire venir un monstre de la peinture comme ça?
C'est les rencontres, voilà.
C'est des contacts.
Les contacts.
Parce que il expose à Paris ou à Londres ou ailleurs. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais fait un reportage avec toi, première fois.
La première exposition, c'était toi qui avais fait le reportage et qui était même passé en national.
Il est passé en national à Soir 3 à l'époque. C'est vrai que c'est inhabituel qu'on expose un Bernard Buffet. Comment tu la sens, sa peinture? Comment elle est, sa peinture? Qu'est-ce que tu aimes dans sa peinture?
J'ai toujours aimé. On a tous grandi, notre génération, je pense, on a tous grandi avec Bernard Buffet. Moi, j'ai toujours des personnes qui me disent « Ah, mais quand j'étais petit, j'avais l'affiche du clown dans ma chambre, etc. » Et puis, il faisait partie des années 80, 70, 80. On entendait parler beaucoup de lui, faisait beaucoup parler de lui. Donc, nos parents ont tous connu Bernard Buffet, son histoire.
Avec des couleurs simples, vives. Il dessinait des bouquets de fleurs, le clown qui a un visage un peu angulaire, comme ça.
C'est plutôt le côté sombre que l'on retient, le trait noir. On aime Bernard Buffet pour le trait noir ou on ne l'aime pas pour le trait noir. Il y a toujours le pendant. Ouais. Mais il a une écriture et c'est immédiatement reconnaissable.
C'est très carré comme ça. Même sa signature, elle est...
Il n'y a pas de rondeur, c'est très graphique. Ouais.
Après, il aimait bien les belles choses aussi. Hein. Il aimait bien les belles voitures. Il dessinait des Rolls. Et je crois qu'il avait une vie de château avec qui il pouvait se le permettre. Hein.
Il est né en 1928. En 48, il obtient un très grand prix qui est le prix de la critique. Et tout de suite, il est rentré. Il a tout de suite été célèbre avec son style.
C'est ça, avec son style.
Il a gardé toute sa vie.
Après, il y a eu beaucoup de jalousie quand même. On l'a un peu jalousé, on l'a un peu montré du doigt, je crois, dans les années 70 peut-être.
Il a toujours eu cette phrase merveilleuse, il dit « On ne m'aime pas, tant mieux, je fais ce que j'aime ». Ça, c'est une très belle phrase, mais le public a toujours aimé Bernard Buffet.
Ouais. Il disait aussi que ma peinture, on la sent, je crois.
On la sent.
On s'arrête devant parce qu'il y a une odeur, on la sent, c'est les yeux qui sont... C'est une belle phrase. Il y a l'émotion.
Parce que quand on voit une reproduction, c'est toujours pareil. Toutes les personnes qui viennent me voir me disent « Ah, mais c'est pas ce qu'on croyait de Bernard Buffet. » Quand on est devant, on se dit « Mince, mais c'est tout à fait... C'est pas ce que je croyais. »
Ça nous
frappe.
Et hier soir, comment c'était dans ton vernissage? Les gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient bouche bée devant ces peintures. Ils s'est dit « Mais comment tu fais, Pascal, pour faire venir tout ça à Strasbourg ?»
Beaucoup d'émotions. Et puis surtout, j'ai des toiles de 1951, donc il est tout jeune.
Waouh.
toute première toile. Ouais. Et avec une vingtaine de toiles, puisque je présente 22 toiles exactement.
Ah, c'est incroyable. C'est incroyable.
On arrive peut-être avec 22 toiles à faire peut-être une histoire de Bernard Buffet.
Ah, oui.
À se rendre compte, parce qu'il y a des toiles très différentes entre celle de 51,
ouais,
celle de 70. Il y a quelques deux toiles de 1970-73. On se dit, tiens, mais ce n'est pas le même artiste.
Tu veux dire qu'il y a une évolution ? Il a évolué ? Il a évolué vers autre chose ?
Je ne crois pas que ce soit une évolution.
Ouais.
C'est, de temps en temps, on part dans un sens, on revient. Les années 70, c'est presque un retour. On a l'impression que ce sont des œuvres de jeunesse, mais pas du tout. Ce sont des œuvres qu'il a faites quand il avait déjà 30 ans. 35 ans.
Est-ce que tu l'as physiquement, tu l'as rencontré ou pas?
Non, malheureusement.
T'as pas eu la chance de le rencontrer.
C'était qu'un jour j'étais dans le sud, j'étais à la cabane bambou et j'avais entendu dire il y a Bernard Buffet et Nobel qui sont sur la plage à côté.
Waouh.
Au club, je sais plus, 55, je crois.
Ah ouais, ouais, ouais.
Mais voilà, j'ai pas eu la présence d'esprit. Aujourd'hui, ça se passait, j'irais dardard à la nage.
Bah ouais, j'imagine que. Ah ouais. Et c'est un grand monsieur assez filiforme, assez grand, hein, je crois, à l'époque, quand il était jeune.
C'était vraiment, j'ai une très belle photo un livre que j'adore où ils sont tous les deux avec Annabelle de dos et ils vont vers leur propriété de Château de l'Arc, ils se tiennent la main. Elle est très élancée, elle est très belle, elle est androgyne. Très belle femme.
C'est beau.
Alors, couple.
Est-ce que tu as contacté sa famille pour avoir toutes ces toiles ou comment tu as fait pour avoir les toiles, autant de toiles? Comment, qui c'est que tu as contacté? Tu as appelé quelqu'un? Tu as fait comment?
Ça, ce sont les rencontres.
Ah, elle ne dit pas plus. Hein. T'es une coquine. Il y a des secrets, je pense.
Voilà.
On ne peut pas tout dire. Hein. Mais écoute, on va écouter une petite musiquette pour se reposer les oreilles de la SICMU que tu aimes bien, là, le Glory Box. On va écouter ça. Vas-y voir Thomas. Pascal, c'est un peu une voix nasillarde comme ça, qui ressemble à aucune autre. Qu'est-ce que tu aimes dans cette musique?
Je ne sais pas. Tu écoutes une musique et tu dis, tiens, ça me plaît. Je me souviens, c'était un jour en voiture, on allait avec des amis au ski et puis ils ont passé cette musique. Et puis direct, je me suis acheté le CD et j'écoute toujours.
Ouais, puis moi aussi, je l'écoute,
j'adore.
J'aime bien aussi. Ouais, c'est quelque chose...
J'aime bien les musiques un peu lancinantes comme ça, puis répétitives. J'aime beaucoup les musiques répétitives.
Demander, ouais.
Quand je suis dans des salons d'art contemporain, ça me reste... des fois, je pourrais rester une heure, deux heures parce que des musiques qui reviennent comme ça. À répétition, on regarde une œuvre et puis ça tourne en
boucle. Et ça te donne envie d'écouter une musique quand tu regardes une œuvre, par exemple ?
Il y a des musiques, oui. Qui...
Et parce qu'il y a de la musique dans les galeries ?
Oui, d'accord. Non, ce n'est pas de la musique dans les œuvres. Il y a des fois des artistes qui travaillent souvent en musique et on le ressent au travers des toiles aussi.
D'accord. Et tu parles d'artistes, est-ce que tu as déjà été dans leurs ateliers ? Est-ce que tu vas les voir chez eux quand ils créent, quand ils peignent ? Là, on va parler d'un peintre alsacien que tu affectionnes, que tu aimes. Jean, comment s'appelle-t-il ?
Jean Remlinger.
Ouais. Alors, tu l'as exposé plusieurs fois aussi.
Oui.
Comment tu sens sa peinture? Qu'est-ce que tu aimes dans sa peinture?
Jean, c'est aussi une belle rencontre, parce que je connais le travail de Jean Remlinger depuis très longtemps, puisqu'à l'époque, dans les années... quand j'ai ouvert ma galerie, je me souviens, il y avait, dans les dernières Noëls d'Alsace, il y avait je crois que c'était toutes les semaines, l'art en fête, et il y avait une grande page dédiée à un artiste, et j'ai connu l'œuvre de Jean comme ça. Et puis, voilà, les rencontres se font. Un jour, je me retrouve à côté de lui un dîner. Et puis, c'est comme si on s'était toujours connus. On était en 2012.
Wow.
À cette époque-là, il était libre d'exposer.
D'exposer.
Voilà, et nous avons fait plusieurs expositions depuis cette époque-là. Parce que Jean a une carrière très, très riche. Il est né il vient de fêter ses 90 ans. Là,
ouais.
Donc, on prépare quelque chose pour
l'année
prochaine. C'est
énorme.
Et ce que j'aime chez Jean, c'est un peu aussi la même chose que pour Buffet. C'est qu'il y a une écriture. Quand on voit un tableau de Jean Remlinger, on sait que c'est Jean.
C'est pas sombre, c'est des trucs un peu...
C'est sombre mais lumineux. En fait, il transcende. Il y a
dans, côté, cette sombrité, dans cette sombrité, dans cette sombre, il y a de la lumière.
Il y a de la lumière.
Ah ouais. Ouais, waouh, c'est bien.
Et il y a une très grosse poésie.
C'est intéressant ce que tu dis.
Et il a toujours travaillé le thème de la figure humaine. Et c'est depuis le début, quand on regarde ses travaux de tout début jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le même fil conducteur.
Ouais. Et alors, quand les gens viennent dans ta galerie et emmènent une peinture, qu'est-ce que tu sens, comment c'est quand tu l'emballes, t'as vendu un tableau, tu es heureuse, et puis le peintre également. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es triste parce que le tableau s'en va
C'est mitigé, il y a des fois des tableaux, j'aimerais bien les garder, mais on ne peut pas tout garder.
Tu ne peux pas tout garder.
On ne peut pas tout garder, mais je me dis que les gens ont bon goût.
Oui, c'est ça.
Et non, mais c'est quelque chose d'emballer une œuvre d'art, parce que quelqu'un qui vous achète une œuvre, c'est magique.
Ouais, c'est chouette.
C'est très beau. Parce que en tant que galeriste, je suis le lien entre l'atelier et puis celui qui va poser son regard sur une œuvre.
Ouais, ouais. Et alors, les gens viennent un peu de partout. T'as pas que des clients de Strasbourg. Ils viennent un peu des trois frontières. Ils viennent d'Allemagne, ils viennent de Suisse, ils viennent même de beaucoup plus loin.
Parce qu'en fait, j'ai la chance d'être située dans un quartier où le monde entier passe devant la galerie.
Ouais, c'est vrai.
J'ai une belle vitrine, donc...
Oui, alors, j'imagine chez toi, dans ta maison que je ne connais pas, est-ce que tu as encore une place où tu peux mettre une toile? Est-ce que tu as encore...
Je fais tourner. Il faut décrocher.
Tu décroches et tu remets.
Il faut décrocher. Ah, ouais, ouais. Parce que quand vous avez toujours quelque chose au même endroit, vous ne le voyez plus.
Ouais, tu le vois plus.
Il faut le changer
de place.
Et puis, c'est bien. Puis ça oblige à recréer, parce que quand vous changez un tableau de place, ça oblige à changer tout le reste. Ouais. La galerie, c'est pareil. Des fois, je me dis, oh non, maintenant, il faut que je
redéfinisse
tout le mur. Parce que
et tu as déjà amené du Bernard chez toi? T'as déjà mis un tableau de Bernard Buffet chez toi, dans ta maison? Tu peux pas parce qu'il y a des assurances, j'imagine.
Des assurances, il faut pas mélanger. Hein,
oui, tu peux pas, ouais, j'imagine.
La galerie, c'est là.
Ouais, parce que c'est la galerie qui assure les tableaux quand tu exposes, par exemple.
C'est le lieu, c'est la galerie, oui.
C'est toi qui a une assurance pour Bernard. Ouais. Et tu dors là-bas jour et nuit, alors tu
quittes... C'est ça. Comme je dis toujours, je vis plus à la galerie que chez moi.
Alors, raconte-moi juste un petit peu ce Bernard Buffet. Tu exploses de quand à quand alors? Quand est-ce qu'on peut voir les tableaux? De quelle heure?
D'ici une heure, là, quand je serai partie d'ici.
Tu seras partie, on peut venir là-bas.
Et jusqu'au 10 décembre.
Jusqu'au 10 décembre.
Et certains dimanches, mais ça, il faut vérifier peut-être.
Et tu te sens heureuse dans cette galerie quand tu exposes de Bernard Buffet? Tu te sens bien là-bas?
Mais pour tous mes artistes, puisque je choisis, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, c'est que je choisis les artistes avec lesquels j'ai envie de travailler. Donc quand j'ouvre la porte, je trouve que c'est magique. Quand je suis dehors, je me dis, tiens, elle est belle cette galerie. J'aime bien écouter un petit peu ou regarder, parce que je vois très bien ce qui se passe dehors. Donc il y a dedans, il y a dehors.
D'accord,
et puis quand je rentre, je pousse la porte, je suis heureuse de rentrer.
Bah écoute, en tout cas, notre émission se termine. J'étais très très contente de te recevoir chez Noir Radio Judaïka. C'est une belle émission. On a parlé de tout. On a rembobiné ta vie jusqu'à aujourd'hui. Magnifique. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez nous.
Merci.
Gros bisous.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.